Phare FM Grenoble présente une décennie d'histoires inspirantes de communauté et d'unité avec la coordination Rhône-Alpes de Sport et Foi. De terrain de football jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, célébrons ensemble 10 ans d'événements sportifs. Dans ce nouvel épisode, je reçois à nouveau Steve Jones, aumônier et pasteur au Pays de Galles, et Mimosette Ngamsi, elle est para-haltérophile. Nous allons parler de cécité, de sport et de l'église, trois sujets pas si éloignés qu'ils en ont l'air.
Je suis Mimosette Ngamsi, je suis para-athlète en anti-sport haltérophilie depuis 2008 déjà. Je suis plusieurs fois championne de France, j'ai fait notamment les Jeux paralympiques de Tokyo.
Dans une émission précédente, nous avons examiné ensemble quelques chiffres, quelques statistiques quoi, sur le handisport dans votre pays, la France. Et pour rappeler, nous avons découvert que vous avez dans l'hexagone de la France 12 millions de Français en situation de handicap, soit 18% de votre population. Et quand j'ai fait de la recherche sur la situation de la cécité dans votre pays, les chiffres sont les suivants. Parmi la population des Français, il y a 1,7 million de Français qui sont atteints d'un trouble de la vision. C'est-à-dire 2,5 de votre population totale qui sont en situation de perte de vue de quelques degrés, quoi. Ça m'intéresse vraiment parce que 1,7 million de personnes aveugles dans ton pays, c'est déjà plus que la moitié de la population totale de mon pays. Ici au Pays de Galles, nous sommes en total, valide, invalide, total 3 millions. Dans la France, vous avez la moitié de notre population chez vous qui est en situation d'aveuglement ou de cécité. Ça m'intéresse vraiment comme statistique et pour extrapoler un petit peu plus les chiffres sur la déficience visuelle dans la France, j'ai trouvé plus de statistiques que parmi ces 20,1 millions de personnes atteintes d'un trouble de vision, vous avez 207 000 aveugles. Et aveugles, ça veut dire ceux qui n'ont pas de perception de la lumière. Vous avez aussi 200 000 de malvoyants profonds, c'est-à-dire malvoyants profonds, c'est vision résiduelle limitée à la distinction de silhouettes. Et puis, troisièmement, vous avez 932 000 malvoyants moyens, c'est-à-dire qui ont une incapacité visuelle sévère, traduisant dans la suivante, en vision de loin, ils ne peuvent distinguer un visage à 4 mètres. Et en vision de près, pour eux, dans cette catégorie, la lecture, en fait, est impossible. Le phénomène de la cécité, c'est quelque chose de très profond dans ton pays, comme dans tous les pays. Ce qui m'intéresse, c'est que ce que je trouve quand je fais de la recherche comme ça, c'est comme ailleurs, le nombre, le pourcentage de ceux qui sont en situation de perte de vue, ils participent de plus en plus dans le sport. Les chiffres pour la participation de ces six sports, dans la France, la Grande-Bretagne, l'Europe, ça monte toujours année par année. Et donc, quelques mots peut-être sur ce que c'est le cécisport. C'est une combinaison, vous comprendrez, des deux mots, cécité et le sport, le cécisport. Dans ce monde de cécisport, on distingue deux types de sports organisés pour des gens en situation de perte de vue. Donc, premièrement, il y a les sports dédiés. Ce sont les sports conçus exclusivement pour les déficients visuels en compétition de référence, mais qui peuvent être quand même être pratiqués par tous en loisir. Il y a des exemples des sports dédiés sont le cécifoot, le football pour ceux en cécité, le goalball dont je suis entraîneur et dont j'en parlerai plus dans quelques moments, torball, le showdown. Tous ces sports-là, les sports dédiés, sont inscrits au programme des Jeux paralympiques. Deuxièmement, on distingue une autre catégorie qu'on appelle les sports intégrés. Intégrés, ce sont des sports traditionnels pratiqués par des déficients visuels en compétition de référence et en loisirs. Par exemple, l'athlétisme, la natation, le cyclisme, le ski, l'escrime, la randonnée, se sont intégrés avec des sports qui existent déjà, si vous voulez. Le monde de l'handisport, c'est grand, c'est l'arche. J'ai l'idée, Benjamin, peut-être de faire un petit exercice, une petite activité entre nous trois, moi, toi et Mimouzette. Si j'allais vous demander, vous deux, de, avec moi, énumérer une liste des sports qui sont pratiqués par les aveugles. J'ai déjà mentionné le CCI foot, le goalball, la natation. Est-ce que tous les deux, vous pouvez énumérer d'autres sports dont vous êtes sûr qu'il y a une version adaptée pour les aveugles?
Peut-être la randonnée.
L'athlétisme, c'est bien pratiqué par les malvoyants, les aveugles. Surtout les courses, surtout ils courent avec un guide. Je crois qu'ils font...
Les sprinteurs avec des guides?
Oui, là, ils font les 100 mètres, les 200 mètres avec des guides. Ils font le sprint, oui.
Et des plus grandes distances aussi?
Personnellement, je ne sais pas. Je n'en ai pas encore vu, mais je connais des athlètes malvoyants qui sont des sprinteurs.
D'accord.
Qui font du 100, 200 mètres. Voici les courses de fond, je ne sais pas.
OK. Donc, on parle là de track et field et de track.
Oui, voilà.
Des sprinteurs. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a des sports sur le field, quoi, qui sont pratiqués par ceux en situation de handicap visuel?
À ma connaissance, non. Je ne sais pas. Je n'en ai pas encore vu qui en faisait. Les trucs comme le lancer de poids, javelot. Mm-hmm. Ou les sauts en hauteur ou en longueur, non. Moi, je n'ai pas encore vu une personne malvoyante qui le faisait.
Oui, je crois que tu as raison. Là, moi non plus, je n'ai jamais vu un aveugle qui jouait du lancement du poids, de javelot, tout ça. Mais le saut à longueur?
Le saut en longueur, non plus. Moi, je n'ai jamais vu.
Ah bien, moi, j'ai vu là plusieurs fois le saut à longueur. Ça, c'est quelque chose à observer, vraiment. Hein, un homme ou une fille qui est tout au début de là du track pour approcher le sable. Et son guide, en fait, son guide se pose devant le bassin de sable et il fait des bruits avec des mains comme ça. L'athlète peut écouter et s'orienter là où c'est le bassin de sable et il court, elle court à haute vitesse vers le sable et puis à un certain moment, il saute. Vraiment, ça inspire. J'ai jamais vu ça de ma vie jusqu'à il y a cinq ans.
C'est vrai que ça l'est impressionnant.
Ah, vraiment, hein, vraiment, c'est incroyable.
Je m'interrogeais, Steve, sur les sports de combat, judo, karaté, les sports équestres.
Super, bien sûr, il y a ces disciplines de taekwondo, de judo, de karaté, tous ces sports de combat sont bien impliqués dans le CC sport, quoi. Mm-hmm. Donc, oui, bien sûr. Et si j'ai demandé à propos du cyclisme, c'est possible d'être aveugle du cyclisme?
Peut-être en allongé.
C'est-à-dire en tandem?
Oui, en tandem, oui, pardon, vélo tandem, oui.
Ah, ouais, voilà, oui. En tandem, oui, j'ai vu ça. Hein. En fait, ici au Pays de Galles, nous avons un champion du monde... en cyclisme pour les aveugles. Elle fait du vélo en tandem. D'autres sports, peut-être?
Les sports équestres?
Non.
Équestres, oui, bien sûr. Oui. En fait, j'ai un ami de famille, là. Il est complètement aveugle, mais il a commencé sa carrière sportive sur un cheval, là, et sa mère était sa guide, quoi, tout au centre du terrain, là, où couraient les chevaux. Le hockey, le ice hockey, hockey sur la glace, pour les...
Ouais,
là où ils utilisent un puck sonore avec des petits grelots à l'intérieur.
Ouais, un peu comme le ballon du safety foot ou du goalball.
Ouais, exactement. En utilisant les mêmes principes, Mimosette, avec des entraîneurs voyants sur le côté et derrière les buts pour les guider, pour les aider. Je connais même quelqu'un qui pratique, il est aveugle, il pratique tir à l'arc. Tir à l'arc. Est-ce que c'est possible? Vous vous demandez, est-ce que c'est possible de pratiquer le tir à l'arc?
Je ne l'aurais jamais imaginé.
Ça, c'est sûr.
Bien sûr, c'est possible. S'il y a quelqu'un qui soit prêt d'être vos yeux, il y a ceux qui sont aveugles qui pratiquent le tir à l'arc avec un guide voyant aussi, quoi. Il y a aussi le ski, le slalom, dans lesquels un athlète aveugle il bénéficie d'un collègue qui font le ski juste avant eux, 5 mètres en avant.
Ah oui, je crois que j'ai déjà vu ça.
Oui, par un signal radio dans le casquette, quoi, il communique les détails là, gauche, droite, 3 mètres gauche, toutes les directions comme ça. Aidez-moi, bon, je m'en, comment dire en français, le mountain biking.
Le vélo de montagne. le VTT.
Voilà.
Vélo tout terrain.
Est-ce que c'est vraiment possible pour quelqu'un qui ne voit pas de faire le vélo de montagne?
Bon. Déjà pour quelqu'un qui voit, c'est pas évident, donc je sais pas.
Alors, en fait, j'ai vu une vidéo il y a 2 semaines de quelqu'un qui faisait justement ça. Hein. Même principe que le ski, il a un guide voyant qui crie à haute voix les directions et les instructions pour lui. Quoi.
Mm-hmm. J'ai un peu triché, ben, voilà. Steve. J'ai vu qu'on pouvait faire de l'escrime ou encore de l'haltérophilie.
Ah oui, ouais, bien sûr. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que, Mimosette, dans ton univers, là, l'haltérophilie, tu as rencontré des athlètes aveugles?
Non.
Est-ce qu'il y a une catégorie spéciale pour
les aveugles? Non, en fait, ils ne peuvent pas, parce que c'est, l'haltérophilie, c'est en principe ouvert déjà aux handicapés moteurs. Et même là encore, en matière de classification, c'est assez rigoureux. Là déjà, il faudrait ne pas avoir des handicaps au niveau des bras. Il ne faut pas avoir des flexions des bras, trop de déformations au niveau du tronc, de la colonne vertébrale. Il ne faut pas non plus être IMC, infirmité motrice cérébrale. C'est un peu rigoureux. Ce n'est pas tellement ouvert à tout le monde que ça.
Peut-être pour quelques moments, nous pouvons zoomer un petit peu sur les deux sports, les 6 sports spécifiques, le CC foot et le goalball pour quelques moments. Donc. En ce qui concerne le CC foot, ce sport paralympique, a l'objectif dans ce sport est en fait de mettre un ballon sonore dans le but adverse, en le faisant progresser à l'aide des pieds, tout en empêchant l'adversaire d'en faire autant. Et le CC foot se joue 5 contre 5 avec un gardien, mais le gardien lui-même, elle-même, ils sont voyants de chaque côté, associés de 4 joueurs de champ non-voyants. On les catégorise dans des catégories B1, B1 pour ceux qui sont complètement aveugles, ou B2, B3, les catégories pour malvoyants. Et les deux catégories sont distinctes. Les B1 joueurs, ils jouent avec des bandeaux sur les yeux, sur un terrain de 20 mètres par 40 mètres, avec des barrières latérales et avec un ballon sonore, avec des grelots à l'intérieur et 2 entraîneurs voyants. En ce qui concerne les joueurs B2 et B3, ils jouent en gymnase, en fait, à l'intérieur, sur un terrain de même dimension que les joueurs B1. Eux, ils jouent sans bandeau sur les yeux. Ils utilisent le reste visuel, quoi, pour jouer. Donc, voilà le CC foot. En ce qui concerne le goalball, c'est mon sport préféré. C'est aussi un sport paralympique. Et dans ce sport, l'objectif est de marquer un but à l'adversaire en lançant un ballon sonore à la main, au ras de sol. Donc, on n'utilise pas les pieds. C'est lancé à la main, au ras de sol, afin que les opposants puissent entendre les grelots à l'intérieur du ballon. Et donc, goalball. Chaque équipe est composée de 3 joueurs qui sont en alternance attaquants puis défenseurs. Et en compétition internationale, l'effectif maximal est de 6 joueurs. Et pour ma part, je me suis introduit dans le monde du goalball. Quand j'étais pasteur, j'ai rencontré des familles qui avaient des enfants aveugles et qui s'exprimaient toujours qu'ils voulaient jouer sous ce sport de goalball. Ils étaient vraiment tristes parce que chez nous, au Pays de Galles, il n'y avait pas d'entraîneur de goalball. Les enfants, ils avaient dû attendre 5 ou 6 mois pour un entraîneur anglais de notre voisin devenir disponible pour venir peut-être pour une journée pour faire un entraînement de goalball. Donc, à l'époque, j'ai entendu leur douleur et j'ai prié. Et j'avais vraiment le sens que le Seigneur me demandait de considérer ce que je pouvais faire moi-même pour servir ces enfants aveugles et leurs familles. Et après avoir prié pendant quelques semaines, j'ai entendu que le Seigneur me demandait en fait de faire la formation pour devenir entraîneur de goalball. Donc moi, je me suis impliqué dans ce monde, ma femme Sarah aussi, mais de sa part, elle s'est impliquée en tant qu'arbitre, afin que nous puissions diriger des jeux entre différentes équipes chez nous. Et ça va sans dire que nous l'avons fait en tant que chrétiens pour servir ces familles. Mais aussi, on avait un grand désir, un grand fardeau de pouvoir faire des disciples de ceux qui sont en situation d'aveuglement. Cela nous a frappé que ces familles étaient vraiment dans aucun sens connectées à l'Église. Ils n'avaient pas de contact avec des chrétiens. Donc pour nous, c'était un champ de mission, quoi. Nous nous sommes entrés dans un différent champ de mission, le monde du goalball. Nous voulions vraiment faire des disciples de ces individus en situation d'aveuglement. Quand je parlais à l'époque avec les membres de mon église et des autres pasteurs, le Seigneur vraiment a mis sur mon cœur un fardeau de faire connaître la problématique de la cécité dans notre société, comment les aveugles sont marginalisés. En fait, je voyais à l'époque très très peu d'aveugles dans l'église. Je voudrais, moi, aider mon église et d'autres églises de vraiment apprécier les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ceux qui sont en situation d'aveuglement. Donc, je me demande si Benjamin et Mimosette, tu peux imaginer pour quelques moments quelles sont les barrières, les obstacles qui se trouvent en face des aveugles quand ils abordent la vie d'une église. Des idées, des observations, quoi.
Moi, je pense à l'accessibilité, déjà, l'accessibilité des locaux, l'accessibilité du culte aussi. Oui, on peut suivre un culte juste avec l'audio. D'ailleurs, on peut le faire en écoutant des podcasts où c'est la prédication avec la louange. Mmh. Mais aujourd'hui, les églises jouent beaucoup sur le visuel. Les églises évangéliques jouent beaucoup sur le visuel. Si ce n'est pas pris en compte que dans l'assemblée, dans l'audience de la salle de culte, il y a des personnes qui sont en situation de cécité ou malvoyante, bon, je me dis qu'elle manque quelque chose.
Je me rappelle en fait quand un des aveugles qui s'est converti dans notre communauté, il est venu à l'église et c'était vraiment difficile pour lui tout au début. Il me demandait toujours comment je peux apprendre les paroles des cantiques, des chansons là. Une chose pratique que nous avons fait, nous avons demandé à ceux qui menaient la louange, quand ils allaient introduire une nouvelle chanson, je leur ai demandé de 3 semaines d'avance, en avance, d'envoyer un enregistrement, soit sur YouTube ou un dossier audio, à l'un cet aveugle pour écouter les mots du chanson avant de venir à l'église. Et c'était quelque chose qu'il a bien, bien apprécié, accompagné par le fait que de temps en temps, nous avons eu produit des chansons en braille. Lui, il était quelqu'un qui lisait le braille. C'est vraiment si on va récolter une moisson et harvest, une moisson d'individus en situation de cécité, il faut vraiment que l'Église prépare pour cette moisson. Ça, c'est une grande question que j'ai. Est-ce que l'Église est prête pour ça, est prête pour les sacrifices qui sont inclus là, de préparer? Je me rappelle dans l'année 2015, j'avais eu l'occasion de servir comme aumônier chrétien dans les championnats de l'Europe de cécifoot. Cela m'a vraiment frappé comment les organisateurs de ces championnats ont préparé pour servir les athlètes. Toutes les réunions là où il y avait des choses sur l'écran, il y avait les audio descriptions pour ceux qui étaient sur l'écran. Quand il y avait des images sans voix, sans audio-voix, il y avait un deuxième track audio qui décrivait ce qui apparaissait sur l'écran. Ils avaient partout des ressources en braille. Ils avaient même pensé à un grand nombre de bénévoles, de guides pour guider des gens partout dans l'environnement, le stade et tout ça. Ça m'a frappé que vraiment, comme je disais dans une autre émission, dans un certain sens, c'est le monde qui mène l'Église dans cette tâche que nous avons.
Est-ce que le monde anglo-saxon est prêt pour accueillir cette moisson? Parce que le monde francophone, et notamment en France métropolitaine, je crois que pas du tout pour le moment. Après, les églises peuvent vite s'adapter, mais comment ça se passe dans le monde anglo-saxon? Est-ce que les églises ont pris conscience de cet enjeu-là?
On toujours beaucoup, un grand distance à aller dans cette direction. Benjamin, moi je note que depuis 2012, depuis que Londres a été le hôte des Jeux paralympiques, ça a bougé quoi, un petit peu. Les églises maintenant sont plus conscients des besoins de ceux qui sont aveugles. Il reste encore quand même beaucoup à faire, beaucoup, beaucoup à faire. Mais vraiment, ça a amélioré d'une façon significative, mais pas assez quand même, je dirais.
Personnellement, moi, à l'église où je vais, j'ai pas encore vu de personnes aveugles là-bas. Donc,
D'accord.
je peux pas non plus me prononcer dessus, je sais pas.
Donc c'est encore un grand défi pour les églises partout, il me semble. Quand on le fait, ce que je sais, que les aveugles, ils apprécient vraiment chaque chose qu'on a introduit pour faciliter la louange pour eux. Une fois, cet athlète Alain, il m'a dit que s'il n'arrive jamais que nous sommes là dans un culte et vous n'avez pas eu l'occasion de me passer les paroles d'une nouvelle chanson, il m'a expliqué que lui et beaucoup comme lui en situation d'aveuglement total, ils ont une capacité de mémoriser très vite les paroles. Et il m'a demandé de le tester un petit peu. J'ai pris les mots d'une chanson nouvelle qu'il ne connaissait pas et j'ai lu les premiers cinq versets. Et après 1 minute, il a répété mot par mot. C'est vraiment quelque chose à voir et attendre. Comment ils peuvent mémoriser très vite les mots. Donc, dans notre église, nous avons introduit le processus de temps en temps, on chantait pas la totalité de la chanson, on a chanté que quelques lignes, puis on a fait une pause afin que Alain puisse mémoriser les mots. Ça a très très bien marché pour la moitié de l'église. Moitié de l'église a dit, waouh, ça c'est vraiment comme Jésus l'aurait fait. Ouais. C'est plein de grâce, plein d'amour. Malheureusement, l'autre moitié de l'église, il disait des choses comme bon, ça interrompt mon expérience de louange. C'était un peu, comment dire, égoïste, disons peut-être. Ça interrompt mon entretien avec l'esprit. Il va avoir des défis pour l'Église, mais ce sont des frères et des sœurs. La seule chose est qu'ils ne voient pas comme nous. Donc, j'espère que ça peut-être ouvre quelques fenêtres. Pour vous deux et pour les auditeurs, pour les pasteurs de l'église, je ne peux pas fermer ces fenêtres totalement, mais c'est vraiment mon tâche, dès que je l'aperçois, d'ouvrir les fenêtres et de demander ces questions, parce que on verrait tout à l'heure dans un passage de la Bible avec lequel je vais finir cette émission, en fait, on va voir que on doit faire tout ce que nous puissions pour que l'évangile soit étendu par les aveugles aussi. Donc, je termine cette émission peut-être avec une lecture de la 9e chapitre de l'évangile selon Jean. Jésus guérit un aveugle. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent, Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond, ni lui ni ses parents. Puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue, il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit, va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent, est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent oui, c'est lui. D'autres disent non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit, c'est bien moi. Alors les gens lui demandent, tes yeux se sont ouverts comment? Il répond, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a mis sur mes yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. Quand nous écoutons ce passage, en rappelant le passage en Matthieu qu'on a déjà entendu dans des émissions précédentes, d'aller partager l'évangile avec toutes sortes de peuples. Voilà le mandat de l'Église, là, de devenir des amis, de faire de la vie, de vivre la vie avec ceux en situation de handicap, de vivre la vie avec ceux qui sont en situation d'aveuglement, et de les aider pour trouver leur identité, leur raison d'être en Christ, en fait, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans les vies de ceux qui sont en cécité. Seigneur Jésus, nous te prions qu'il en soit fait ainsi, Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Merci Steve, merci Mimosette. On se retrouve dans un prochain épisode. À quel sujet, Steve ?
Dernièrement, le quatrième épisode, en fait, Benjamin, j'ai donné le titre « Les Jeux paralympiques, une opportunité pour l'Église française ».
Dans le prochain épisode, je reçois à nouveau Steve Jones et Mimosette Ngamsi, un podcast à retrouver sur pharefm.com et sur les plateformes de streaming proposées par la coordination Rhône-Alpes de l'association Sport et Foi.